Alors, je vais donc souhaiter la bienvenue surtout à mes nouveaux étudiants hein, qui n'ont pas eu le plaisir d'entendre les conférences de l'an dernier. Hein. Alors, ils pourront quémander les cours à leurs voisins ou voisines s'ils les ont. Donc, l'an dernier, on avait commencé avec l'installation des premiers Européens hein, sur le sol de ce qu'allaient devenir les États-Unis d'Amérique. Hein. Et puis nous étions comme ça progressivement allés jusqu'au milieu du 19e siècle. Hein, j'avais évoqué cette grande figure de la démocratie, de la démocratisation du système américain autour du 19e siècle, qui est Andrew Jackson. Vous vous souvenez, ce président qui est à l'origine de la généralisation dans les élections du suffrage universel aux États-Unis. Et puis, comme j'avais été assez long sur l'œuvre d'Andrew Jackson, hein, l'Amérique qu'avait visité Alexis de Tocqueville, hein, donc il avait ramené son célèbre livre de la démocratie en Amérique vers 1840, hein, eh bien, je n'avais pas encore abordé la guerre de sécession. Voilà Andrew Jackson, hein, que vous voyez sur un tableau qui le représente, qui était un militaire, un général, hein, comme ça a été souvent le cas dans l'histoire américaine, hein, les militaires deviennent souvent présidents des États-Unis. Alors, je vais diviser cette séance en trois parties, mais je crains de ne pas trop pouvoir vous parler, développer la troisième partie, mais comme les conférences se suivent, hein, si je n'ai pas trop le temps de vous parler du bilan, enfin du bilan je pense que je pourrais le faire, mais des conséquences, ce qu'on appelle la reconstruction, eh bien je le ferai dans 15 jours, en préambule de la conférence suivante, hein, puisque c'est en fait des conférences qui se suivent. Hein. Donc, alors, ce que je voudrais rappeler, c'est tout simplement que le problème noir ne s'est pas posé au moment de la guerre civile. Alors, d'abord, vous le savez, si vous parlez aux Américains de guerre de sécession, ils doivent se demander de quoi vous lui parlez, parce que aux États-Unis, on parle de guerre civile. Hein. Le mot sécession, c'est nous qui l'avons utilisé, mais les Américains n'utilisent absolument pas ce terme pour, dans leur histoire. Hein. Vous ne trouverez pas ce terme en anglais. Hein. C'est la guerre civile, hein, donc le Civil War, donc pour les Américains. Alors, ces Noirs qui sont arrivés, ils sont arrivés dès le début de l'installation des Européens. Hein. J'en ai longuement parlé. Vous avez même, pour ceux qui sont venus l'an dernier, des tableaux où, par état, vous aviez la population noire et la population blanche. Vous pourrez les regarder à nouveau, hein, ces tableaux. Hein. Et au moment de l'indépendance, hein, au moment de l'indépendance et au moment l'élaboration de la Constitution, s'était posé déjà le problème, qu'allait-on faire? Est-ce qu'on allait supprimer l'esclavage? Hein, allait-on le maintenir? Alors, comme les Noirs étaient très inégalement répartis, les États situés au nord, hein, qui n'avaient pas besoin d'esclaves, naturellement étaient favorables à son abolition, mais les États qui se trouvaient au sud, hein, qui avaient, eux, une population noire très importante, hein, naturellement étaient hostiles à l'abolition de l'esclavage. Bon, on avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là, il fallait élaborer la Constitution des États-Unis. Donc, on a dit, on reportera le problème à plus tard, pour le moment, statu quo. Hein. Alors, il y a un certain nombre d'événements que je voudrais évoquer, parce qu'ils sont importants. Alors, une chose aussi, hein, une chose à ne pas... Un anachronisme, on associe toujours guerre civile, et enfin, ce qu'on appelle une guerre de sécession, les Noirs et le coton. Hein. Or, les esclaves, souvenez-vous, hein, l'une d'entre vous va s'en rappeler, au départ, il n'y a pas de culture du coton, c'est la culture du tabac, hein, la culture du riz, la culture de la canne à sucre, mais le coton ne viendra qu'après. Hein. C'est un peu un anachronisme, on s'imagine toujours, dès le départ, hein, les Noirs dans les champs de coton, au XVIIe, au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout le cas, hein. On ne cultive encore très peu le coton. Alors, justement, en 1793, vous voyez, on est au tout début de l'histoire américaine, il y a une grande invention qui est faite par un certain Whitney, Elie Whitney, je ne sais pas pour les spécialistes un peu, c'est l'égraineuse à coton, c'est-à-dire une machine, hein, qui permet de séparer hein, la fibre de la graine, hein, et qui va faire que, à partir de là, on va pouvoir passer à une culture à grande échelle du coton, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est Elie Wiesner, les Britanniques, les Anglais, hein, et c'est à partir de son invention que va se développer l'industrie cotonnière en Angleterre, c'est-à-dire nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment de la première révolution industrielle. Hein. Donc, à partir de là, hein, on a d'énormes besoins en coton, hein, et on va passer à une culture à grande échelle, hein, en particulier en Amérique du Nord. Plus tard, on utilisera le coton, c'est à grande échelle en Inde, en Égypte, etc. Hein. Mais cette invention de l'égraineuse à coton par Elie Wiesner est très très importante parce qu'on peut passer d'un stade, je dirais, artisanal, très limité, à envisager une culture vraiment industrielle du coton. Deuxième date importante, c'est 1815, c'est-à-dire la fin des guerres napoléoniennes, et vous voyez tout de suite les conséquences. Après la fin de la guerre napoléonienne, tous les problèmes de guerre de course dans l'Atlantique, de système continental, etc., tout ça disparaît. Hein, et le commerce transatlantique reprend. Et il peut se faire désormais librement, sans risque de voir les bateaux arraisonner, hein, par la flotte anglaise, etc. Hein, donc après les guerres napoléoniennes, le commerce transatlantique reprend et l'Angleterre, avec le développement des industries cotonnières la région de Lancashire, c'est-à-dire tout autour de Manchester, Liverpool, a d'énormes besoins de coton que l'on ne cultive pas en Angleterre. Il faut le faire venir et on le fait venir principalement, d'Amérique du Nord et des États-Unis. Pas naturellement au Canada, les conditions climatiques ne le permettent pas. Donc cette culture est jugée à ce moment-là rentable seulement avec une main-d'œuvre servile, hein, d'esclaves, hein, dans les États du Sud. Donc le problème, c'est que il y a toujours cette distinction dans l'opinion américaine entre les États qui veulent maintenir l'esclavage et ceux qui veulent l'abolir. Hein. D'où la nécessité d'avoir un équilibre. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'États qui soient abolitionnistes ou d'États à esclaves. On parlait d'États esclaves et d'États libres. Hein. Alors, l'équilibre, il fallait surtout qu'il soit important au Sénat, parce que c'était, vous savez que le Sénat, vous l'avez vu aussi, vous avez un peu suivi la dernière campagne électorale, c'est très très important parce que finalement, contrairement à notre Sénat en France, où c'est la Chambre des députés qui a toujours le dernier mot dans une loi, et aux États-Unis c'est un peu le contraire, le Sénat est très important, hein, et c'est lui qui finalement, dans les décisions, hein, a le dernier mot. Hein. Or, il fallait un équilibre au Sénat. Or, vous savez, je l'avais expliqué, mais je l'explique pour ceux qui n'étaient pas là, au Sénat, tous les États sont représentés de façon égale, quelle que soit leur population. Chaque État a deux sénateurs. Hein. Donc, il y a actuellement, il y a 50 États, il y a 101 sénateurs. Alors, vous me direz, bah, 50 multiplié par 2, ça ne devrait faire que 100. Hein. Mais ça en fait 101 parce que le vice-président des États-Unis, le futur, c'est Joe Biden, est... puisqu'il n'a pas grand-chose à faire, hein, si ce n'est, comme on disait autrefois, il aurait un peu les chrysanthèmes, hein, c'est-à-dire qu'il est envoyé un peu à l'étranger quand le président juge qu'un voyage dans un certain nombre de pays n'est pas essentiel, hein, un mariage princier à la cour de Liechtenstein, bon, ça ne mérite pas la présence du président des États-Unis, on envoie le vice-président, hein, ou la First Lady, hein, la première dame des États-Unis. Hein? Bon, alors lui est il est amené à jouer parfois un rôle important quand le président vient démissionner, il lui succède automatiquement, ou si le président est assassiné, hein? Il y a beaucoup de cas dans l'histoire américaine malheureusement, hein? Mais le vice-président, quelle est sa fonction? Normalement, il préside le Sénat, hein? Donc c'est le 101e membre du Sénat, hein? Alors retenons que jusque vers 1818-1819, il y a équilibre. Il y a 11 États abolitionnistes et 11 États à esclaves. Donc, équilibre. Donc, on sait qu'il ne risque pas d'y avoir un amendement à la Constitution qui risque de faire basculer, si vous voulez, la majorité dans un camp ou dans un autre. Jusqu'à la guerre de sécession, va se poser ce problème d'équilibre. Alors, le premier problème, on peut peut-être montrer... Alors, vous l'avez la carte, donc vous allez trouver. C'est le problème qui va se poser en 1819. Hein. Regardez, en 1819, se pose le problème de l'admission, de l'admission en tant qu'État du territoire que l'on appelle le Missouri. Alors, le Missouri, regardez, je pense que tout le monde l'a repéré, dont la capitale est Jefferson City, mais dont la ville principale est la ville de Saint-Louis, sur le Mississippi. Je réexplique. Pour qu'un territoire devienne un État, souvenez-vous, j'avais expliqué, je crois, il faut qu'il atteigne une population d'au moins 60 000 habitants. Donc à ce moment-là, le Missouri avait atteint cette population, donc il pouvait devenir un État de plein exercice, alors qu'auparavant, il n'était qu'un territoire. Donc se pose à ce moment-là l'admission du Missouri en tant qu'État. Vous voyez que le Missouri se trouve dans les grandes plaines du Middle West américain, et plutôt quand même au nord, plutôt, enfin, dans la moitié nord du pays. Et en 1820, vous voyez que le Missouri n'entrera qu'en 1821, le Missouri va être l'objet d'un compromis qui est très important dans l'histoire américaine, qu'on va appeler d'ailleurs le compromis du Missouri. Le compromis du Missouri. Alors, quel est ce compromis ? Le Missouri devient un État, et il devient un État esclave. Alors, vous voyez qu'on a fait une entorse, si vous voulez, on fait entrer le Missouri comme État esclave, alors qu'il est situé quand même au nord. On le considère en quelque sorte comme un État du Sud. On le considère comme un État du Sud, bien qu'il soit un État plutôt situé au nord. Alors, l'équilibre se trouvait rompu, puisqu'il y avait plus d'États esclaves que d'États abolitionnistes. Donc, il a fallu faire un artifice juridique. Alors, le Massachusetts, qui est tout à fait au nord-est des États-Unis, que vous avez sur la carte, a décidé, parce que c'était déjà un État très peuplé, il a décidé qu'il donnerait une partie de son territoire pour créer un nouvel État. C'est-à-dire que le Massachusetts s'est scindé et on a créé l'État du Maine. Vous voyez ce grand État qui est créé en 1820, il y a à peu près en même temps que le Missouri. Donc, on faisait rentrer le Missouri comme État esclave et en même temps, on crée un État libre, tout à fait à la frontière du Canada, un État donc nouveau. Donc, on passait de 11-11 à 12-12. Donc, le statu quo arrivait à être ainsi maintenu. Alors, ça, c'est le compromis immédiat. Et on décide, à partir de là, que l'esclavage, on avait fait une exception avec le Missouri, mais que l'esclavage ne pourrait pas s'étendre au nord du 36e parallèle. Alors, le 36e parallèle, vous le voyez, vous pouvez suivre pratiquement sur la carte, vous voyez, c'est cette ligne qui part de l'Atlantique, qui sépare d'abord la Virginie de la Caroline du Nord. Alors, la Virginie, c'était aussi une exception, parce que la Virginie, c'était un État esclave depuis les origines, donc, on n'avait pas là, on n'avait pas décidé qu'en fait, c'était un État au nord du 36e degré, 30 minutes exactement, c'est le 36e degré de latitude nord, 30 minutes, on avait décidé qu'il serait un État esclave comme le Missouri. Et vous voyez que cette ligne, vous la suivez à peu près, regardez, vous la suivez Ensuite, elle passe entre le Tennessee et le Kentucky, elle passe ensuite entre l'Arkansas et le Missouri, entre l'Oklahoma et le Kansas. Vous voyez, vous la suivez jusque pratiquement en Californie, hein, jusqu'au Nevada. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est ce fameux compromis du Missouri. Il était considéré au nord de cette ligne, hein, une ligne qu'on appelle la ligne Dixon-Mason, du nom de ceux qui ont contribué à ce compromis, hein, eh bien, au nord de cette ligne, eh bien, l'esclavage ne serait pas étendu. Hein, mais on avait fait, vous voyez, une exception avec le Missouri, mais on avait décidé qu'on ne referait plus une entorse à ce principe. Hein. Alors, on avait décidé que tout ce qui allait devenir des États vers l'ouest devrait respecter cet engagement, c'est-à-dire au nord de cette ligne, pas d'esclaves. Hein. Alors, en fait, vous voyez, on avait trouvé un compromis, mais le problème, en fait, de l'esclavage n'était absolument pas réglé. Hein. C'était une solution de compromis. Hein. Et dans les années qui ont suivi, hein, on est en 1820, dans les années qui ont suivi, le mouvement anti-esclavagiste s'est tout de même fortement développé. Hein. Dans les années 1820, vous avez un fort développement du mouvement anti-esclavagiste, en particulier, naturellement, dans les États du Nord. En particulier dans les États du Nord, parce qu'il y avait aussi, dans les États du Sud, une partie de l'opinion qui pensait qu'il fallait absolument qu'il y ait une évolution, hein, dans les États du Sud. La totalité de l'opinion publique n'était pas entièrement acquise à l'esclavage. Il y avait une partie de la population, hein, en particulier celle qui n'était pas directement par ses intérêts économiques liés à l'esclavage, qui était favorable à son abolition, mais enfin, il y avait relativement quand même peu de monde. Hein. Alors, un fort courant se développe dans les États du Nord, hein, et je vais revenir sur un point que j'avais évoqué, hein, à propos du commerce extérieur. Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué. Les États du Nord, qui sont des États nettement plus industriels, hein, qui se développent, l'industrie se développe, sont, sur le plan du commerce extérieur, ils sont protectionnistes. C'est-à-dire qu'ils veulent des barrières douanières fortes à l'entrée des produits venus d'Europe, et en particulier, qu'est-ce qui concurrence la toute jeune industrie américaine, les produits qui viennent de Grande-Bretagne. Donc, les États du Nord sont favorables à des taxes douanières très élevées pour protéger l'industrie naissante. Hein? Au contraire, les États du Sud, sont tout à fait hostiles à cette politique protectionniste. Pourquoi? Parce que si les Américains, les États-Unis, veulent barrer l'entrée aux États-Unis des produits venus d'Angleterre, que risque de faire le gouvernement anglais? Il risque, vis-à-vis des produits importés des États-Unis, avoir la même politique, la même attitude, une politique de rétorsion. Et qui serait à ce moment-là touché? Ce ne seraient pas les États du Nord qui n'exportent pas grand-chose vers l'Angleterre, mais les États du Sud qui exportent leur coton. Hein, qui exportent leur coton. Ils ont besoin que ce coton puisse entrer facilement en Angleterre. Hein. Donc, eux sont favorables au libre-échange, hein, avec l'Angleterre, ou du moins à une politique de taxes douanières les plus faibles possibles pour ne pas gêner leurs exportations vers l'Angleterre. Hein. D'où, compte tenu de cette politique protectionniste du Nord, vers 1830 apparaît un courant dans le Sud, dans les États du Sud, qui se dit, mais puisque les États du Nord et nous avons des intérêts économiques aussi divergents, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, faire sécession, hein, par rapport aux États du Nord qui ont des intérêts économiques diamétralement opposés aux nôtres? Donc, dès 1820-1830, vous avez un courant sécessionniste, c'est-à-dire de séparation. Un certain nombre, une partie de l'opinion publique et même d'hommes politiques de première importance dans les États du Sud pensent que peut-être, hein, un jour ou l'autre, il faudra, hein, se séparer, hein, diviser, hein, se diviser. Hein. Et ceci, les États du Nord et le gouvernement fédéral le prennent très en sérieux. Andrew Jackson, dont vous avez vu le portrait, a même en 1800, pour vous prendre un exemple très concret, en 1832, il était alors président des États-Unis, il a envoyé des troupes fédérales dans le sud, hein, dans un certain nombre d'États du sud, hein, en particulier en Caroline du Sud, hein, vous voyez la Caroline du Sud, hein, qui est un État esclavagiste, hein, pour affirmer en quelque sorte, hein, la présence fédérale dans l'État de Caroline du Sud, pour bien montrer aux autorités de l'État que la Caroline faisait partie de l'Union et qu'elle devait y rester. Hein, cette présence militaire, hein, de l'armée américaine, hein, a été maintenue, hein, plusieurs années en Caroline du Sud, hein, pour bien montrer que Andrew Jackson voulait maintenir l'unité des États-Unis, hein, et montrer et dissuader la Caroline. Mais la Caroline était le plus en point dans ce combat sécessionniste, mais dans d'autres États voisins, il pouvait y avoir la même attitude, hein, pour bien montrer que le gouvernement fédéral n'accepterait pas cette sécession. J'avance un petit peu et je vais vous parler en 1831, toujours, vous voyez, à peu près à la même époque, hein, d'un événement qui se passe cette fois en Virginie. Hein. C'est un événement assez révélateur du développement du problème noir, hein, avec une insurrection, hein, une insurrection qui se déroule en Virginie, dans la région de Southampton, c'est près de la côte atlantique. Hein. Une insurrection, hein, organisée, enfin fomentée par un prédicateur qui s'appelle Nat Turner, vous trouverez son nom. Lisez des livres sur le problème noir aux États-Unis, il y en a beaucoup en français. Hein. Et qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce qui s'est passé en Virginie en 1831? Ben, il y a eu une insurrection et les insurgés ont massacré un certain nombre de planteurs qui étaient dans de petites plantations un peu isolées. Hein, vous voyez, des actes terroristes, hein, dans un certain nombre de lieux isolés, on s'en prend aux planteurs qui sont, pour certains, molestés, pour d'autres même assassinés, leurs demeures sont brûlées. Hein. Il y a toute une insurrection qui se développe, il y a une soixantaine de planteurs blancs qui sont assassinés au cours de cette insurrection, hein. Et cette insurrection, elle a été réprimée dans le sang, hein, par les autorités de Virginie, hein, et Nat Turner fut arrêté, il fut condamné et exécuté. Hein, et à la suite de cette insurrection, hein, on a commencé à prendre conscience dans le Sud qu'il y avait un risque, hein, d'insurrection généralisée, et le code de l'esclavage, le code qui régissait le statut des esclaves, a été aggravé par rapport à la période précédente. C'est-à-dire que le sort des esclaves s'est trouvé beaucoup plus... s'est trouvé aggravé, oui, c'est durci, hein, le statut de l'esclavage est considérablement durci à partir de 1830, ce qui permet de mieux comprendre, d'une part, les revendications des esclaves dans le Sud, mais surtout le combat des Blancs en faveur de l'abolition dans les États du Nord, puisque la condition noire avait tendance plutôt à s'aggraver dans le Sud. Hein? Dans les années 1840, vous voyez, j'avance un petit peu dans la période, hein, se pose à nouveau le problème de l'équilibre entre État libre et État esclave. Hein? Pourquoi? Parce que ben, y a des territoires qui arrivent au seuil de 60 000 habitants, et qui demande à entrer dans l'Union. Hein? Alors, entre dans l'Union, ben, regardez la Floride en 1845. Or, la Floride est au sud, donc c'est un État esclave. Rentre en 1845 le Texas, également un État à esclave. Hein? Donc, vous voyez deux États esclaves, dont fureur des États du Nord, hein, puisque l'équilibre est rompu en faveur des États qui sont majoritairement favorables à l'esclavage. Hein. Alors,
l'équilibre va être rétabli, parce que si vous regardez la carte, on va réussir à rétablir l'équilibre en 1846-1848. Si vous, vous voyez, il y a l'Iowa qui devient un État en 1846, et il y a le Wisconsin qui devient un État en 1848. Donc, l'équilibre est à nouveau rétabli en 1848. Deux États du Sud, esclavagistes, deux États du Nord, libres, dits libres, c'est-à-dire sans esclaves. Hein. L'équilibre est rétabli. Alors, se pose, deux ans plus tard, parce que le problème se posait très... risquait de se poser à tout moment, hein, dès qu'un État entrait, se pose le problème de la Californie. Alors, regardez, difficulté majeure en 1850, regardez la Californie. Si on prolonge le 36e degré, ben, la Californie est à cheval, elle est à cheval sur le 36e, alors allait-elle devenir un État esclave ou non, hein? Où allait-on? Alors on aurait pu imaginer que le sud de la Californie devienne le nord, mais ne le soit pas, donc on n'a pas opté pour ce problème. Alors on a décidé que la Californie entrerait, hein, dans l'Union, et qu'elle serait un État libre. Donc la majorité passait à ce moment-là en faveur des États abolitionnistes, puisqu'on en avait un de plus dans les États abolitionnistes. Hein. Henry Clay, dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'auteur du compromis de 1820, qui vivait encore, qui était un homme politique encore important, Clay, C-L-A-Y, hein. Henry Clay, on lui demande, puisqu'il avait si bien négocié le compromis de 1820, on lui dit, bah, essayez de nous trouver un nouveau compromis. Hein. Et il élabore un nouveau compromis, hein, en 1850. Hein. Alors, on considère, hein, que tous les territoires, la Californie avait été constituée à partir de territoires acquis sur le Mexique. Vous voyez que sur le Mexique, on avait aussi... sur le Mexique, les États-Unis avaient également pris les territoires qui devaient devenir plus tard l'Arizona et le Nouveau-Mexique, mais aussi l'Utah, le Nevada, etc. On considérait, hein, le compromis était que dans toutes ces régions, quand elles deviendraient, ces régions deviendraient des États, on pourrait y introduire l'esclavage. Alors, c'était quand même un compromis. Hein, qui se faisait un peu au détriment des abolitionnistes, puisqu'ils voyaient s'étendre encore l'esclavage vers l'Ouest. Hein. Ils voyaient encore l'esclavage, la possibilité d'étendre l'esclavage vers l'Ouest, hein, y compris au Nevada, qui est au nord, en Utah, qui est au nord de la ligne du 36e degré, hein, de latitude nord. Par ailleurs, dans ce compromis de 1850, on a renforcé la législation en ce qui concerne les fugitifs, parce que de plus en plus aux États-Unis, il y avait des associations qui se créaient, hein, dans les États libres pour faciliter l'évasion des esclaves dans les États du Sud, surtout dans les zones frontalières. Hein. Il y avait des groupes, si vous voulez, d'abolitionnistes qui aidaient les esclaves à passer, hein, dans les États du Nord. Hein, quand ils fuyaient les plantations, hein, ils aidaient. Alors, le code, les réglementations en ce qui concerne les fugitifs est renforcée, hein, et conditionnée naturellement les esclaves de s'échapper, hein, des plantations. Hein. Globalement, ce compromis de 1850 était quand même globalement un succès pour les sudistes, enfin ce qu'on va appeler les sudistes, parce que vous voyez, on pouvait espérer étendre encore l'esclavage plus à l'ouest, et puis ce renforcement de la législation en ce qui concerne les fugitifs les avantageait, hein, puisque si les fugitifs, ceux qui aspiraient à s'échapper savaient que s'ils étaient repris, hein, la répression risquait d'être particulièrement sévère, c'était peut-être, c'était aussi pour éviter qu'ils aient l'idée de fuir vers les États du Nord. Naturellement, ce compromis de 1850 a été très critiqué par les éléments libéraux, hein, du des États du Nord. Hein. Et c'est à ce moment-là que la société américaine anti-esclavagiste, alors ça c'est très, très connu, hein, vous en avez peut-être entendu déjà parler, hein, qui s'est, elle s'était constituée en 1833. Elle regroupait donc des partisans de l'abolition et elle s'était créée dans le Nord. Dans le Nord, hein, cette société a pris une très grande ampleur. Hein. Le nombre d'adhérents, hein, a considérablement augmenté. Le nombre d'adhérents, ça a permis de faire rentrer aussi beaucoup d'argent. Et cette société anti-esclavagiste a disposé de fonds très importants pour publier énormément de tracts, hein, énormément de tracts, de journaux, de placards, d'affiches en faveur du combat abolitionniste. Hein. Et puis alors, en 1852 est arrivée la publication, c'est à ce moment-là qu'a été publié un ouvrage qui a eu un énorme retentissement aux États-Unis, mais également en dehors des États-Unis. Vous connaissez au moins le titre, même si vous n'avez pas lu, c'est la fameuse case de l'oncle Tom, hein, d'Harriet Beecher Stowe, qui est publiée en 1852. Alors, c'est tout à fait extraordinaire parce que ce livre a été traduit, j'ai vérifié, il a été publié aux États-Unis et presque immédiatement traduit en français, par exemple, en allemand, et il a été très largement diffusé hors des États-Unis. Donc, le combat des abolitionnistes, si vous voulez, avait aussi une ramification internationale. Même aux États-Unis, enfin en dehors des États-Unis, le combat pour l'émancipation des Noirs a rencontré aussi une audience considérable. Pensez que la France avait aboli l'esclavage 4 ans auparavant, puisque c'est une des premières décisions du gouvernement provisoire de la Seconde République en 1848, un gouvernement présidé par Lamartine, qui a, c'est un de ses grands actes politiques, hein, l'abolition de l'esclavage avec aussi l'adoption du suffrage universel. Alors, ajoutons à cela que partout dans les États limitrophes, hein, des États du Sud, hein, se constituent des organisations pour aider les esclaves fugitifs à passer, hein, les limites des États, hein, et se réfugier dans les États du Nord. Vous voyez que la question devient de plus en plus préoccupante. Hein. Alors, se repose très rapidement, dans cette décennie 1850, le problème de l'admission de nouveaux États. Alors, regardez, c'est là le moment où le Nebraska et le Kansas veulent devenir des États. Alors, le Kansas, vous le repérez, nous sommes au nord du 36e degré, et le Nebraska. Or, ces deux États veulent devenir des États, enfin ces deux régions, ces deux territoires veulent devenir des États, mais ils veulent introduire l'esclavage. Donc vous voyez, la règle qui voulait depuis 1820 qu'on n'introduise pas l'esclavage au nord du 36e degré risquait d'être rompue. Hein? Elle risquait d'être rompue. Hein? Alors, c'est important parce que là se pose un problème. Problème entre la législation des États et la législation fédérale. Hein? Effectivement, on voit, hein, tout un conflit politique entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des États. C'est souvent d'ailleurs le cas aux États-Unis. Les lois fédérales, parfois, vont à l'encontre des lois des États. Hein? Et c'est à ce moment-là que les États l'emportent sur le gouvernement fédéral. Il est à ce moment-là dit que c'est aux États et non pas au gouvernement fédéral de décider si un État veut être un État esclave ou pas. Donc c'était un grave effet pour le gouvernement fédéral, puisque c'était en fait rupture du compromis 1820, puisque maintenant la loi fédérale, hein, était éclipsée au profit des États qui pouvaient décider unilatéralement d'introduire l'esclavage. Et c'est à la suite de ce conflit que s'est créé un nouveau parti politique, hein, qu'on appelle le Parti républicain. Le Parti républicain actuel, hein, l'actuel parti républicain, hein, se constitue à ce moment-là, dont le principal thème de campagne était l'abolition de l'esclavage. Alors ça, je crois que beaucoup de gens font la confusion. C'est pas le parti démocrate actuel qu'on situe plus à gauche qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'est le parti républicain, le parti actuel républicain. Hein. Parce que, faites attention, parce que vous savez, j'avais insisté l'année dernière sur ces problèmes de terminologie, parce que les partis portent parfois le même nom, mais sont pas du tout la même tendance politique selon les époques. Hein. En 1857, donc, hein, la Cour suprême, qui est très importante aux États-Unis, confirme ce que je venais de dire là, c'est-à-dire c'est aux États de décider s'ils veulent introduire ou pas l'esclavage. Donc c'était une grave défaite, c'était une grave défaite pour le gouvernement fédéral, hein, et c'est une grave défaite aussi. Enfin, c'est très grave aussi pour ce jeune parti républicain, parce qu'il doit s'éloigner, hein, il doit s'éloigner la perspective d'abolir l'esclavage, puisque désormais ce sont les États qui décideront. Hein. Alors en 1859, hein, intervient un événement important qui est la prise, hein, qui est la prise par un. Alors, cette fois, c'est un acte commis par un mouvement anti-esclavagiste du Nord, hein, qui organise en quelque sorte un raid, hein, sur un État du Sud, hein, sur un arsenal en Virginie. Hein. C'est à la tête de cette opération, il y a un certain John Brown, hein, qui, avec un certain nombre de ses partisans, s'empare d'un arsenal en Virginie, à Harper's Ferry, c'est sur la côte atlantique, hein, dans le but, en s'emparant de cet arsenal, d'armer des Noirs et à les appeler au soulèvement en Virginie, qui est un État esclavagiste, contre les planteurs blancs. Hein. Les troupes fédérales doivent intervenir pour réprimer cette insurrection. Hein. John Brown est arrêté, hein, il va être d'ailleurs pendu, hein, condamné et pendu. Hein. Alors, ce qui est très important, c'est que pour les sudistes, il avait absolument cette tentative de soulever les Noirs, quelqu'un venu du Nord, absolument été prise comme un danger considérable. Les anti-esclavagistes du Nord venaient soulever les Noirs au Sud, hein, et pour les anti-esclavagistes du Nord, John Brown est devenu un martyr, hein, puisqu'il avait payé de sa vie, hein, le combat en faveur de l'abolition de l'esclavage. Et John Brown, la personne de John Brown, est devenue emblématique pour ceux qui combattaient, hein, l'esclavage aux États-Unis. Hein. Au contraire, au Sud, hein, eh bien, ce soulèvement qu'il avait organisé était source de peur, hein, que d'autres soulèvements soient organisés, hein, ultérieurement. Hein. Vous voyez que progressivement, les passions, hein, entre le Nord et le Sud sont exacerbés par ce problème noir. Alors, naturellement, la surprise, c'est lorsqu'en mai 1860, hein, et nous allons en venir à l'origine de la sécession des États du Sud, en mai 1860, Abraham Lincoln, on va peut-être voir le portrait d'Abraham Lincoln, voilà, hein, Abraham Lincoln, hein, est choisi, est désigné comme candidat du parti républicain pour la prochaine élection. Alors, c'est facile, puisque dans toute l'histoire américaine, c'est toujours les mêmes dates. Hein. Hein, c'est toujours les élections ont lieu en année paire, le président entre en fonction de l'année impaire. Et en novembre 1860, Abraham Lincoln est élu.
président des États-Unis. Alors, il est élu parce que le Parti démocrate, le parti d'Andrew Jackson, qui avait créé le Parti démocrate, le Parti démocrate qui avait institué le suffrage universel, le Parti démocrate s'est scindé aux élections de 1860. C'est une triangulaire. Il y en a quelques fois dans l'histoire américaine. Hein. Il y a eu quelques exemples de triangulaire, hein. Il y en a même eu dans l'histoire récente. Hein. Et le Parti démocrate a perdu les élections parce qu'il était divisé, hein, et qu'en fait, Abraham Lincoln a été élu grâce à cette division. Hein. Si le Parti démocrate avait maintenu son unité, il n'est pas sûr qu'Abraham Lincoln eût été élu, hein,
en 1860. Hein. Alors, vous comprenez bien qu'Abraham Lincoln étant l'élu du Parti républicain, le principal thème de la campagne et du programme était l'abolition de l'esclavage, vous comprenez bien que les États du Sud ont très vite compris que l'arrivée à la Maison Blanche d'Abraham Lincoln, ça signifiait à terme l'abolition de l'esclavage, d'où la décision, avant même l'entrée en fonction du président. Alors à cette époque, le président entre en fonction très longtemps après l'élection. Hein. Vous savez que le président est élu en novembre, hein, le 1er mars du novembre, hein, et il n'entrait à cette époque en fonction qu'au mois de mars de l'année suivante. Hein. Entre-temps, se réunissaient les grands électeurs. Hein, les grands électeurs, on ne sait pas si après on en parlera, puisque les grands électeurs ont un vote impératif. Ils vont se réunir le 5 décembre. Hein. Et là, ça a officiellement proclamé définitivement élu le président, le nouveau président des États-Unis. Hein. En 1860, le 6 décembre, donc je pense que la date était la même, hein, c'était le 5, le 6 décembre 1860, la Caroline du Sud, hein, vous voyez la Caroline du Sud, capitale de Columbia, hein, État par excellence, hein, ces États où il y avait beaucoup de plantations et des Noirs, hein, décident unilatéralement de se retirer de l'Union, donc de faire sécession. Hein, de faire sécession. Il est aussitôt suivi, alors peut-être qu'on pourrait montrer la carte que vous m'avez montrée, alors celle-ci. Oui, on voit là, alors, vous voyez les États qui vont former la Confédération, vous voyez, sont ce sont les premiers, là, en vert, en cacadois. Hein. Alors, regardez, la Virginie, vous repérez la Virginie, là, hein, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Alors, c'est la Caroline du Sud qui a pris l'initiative, hein, et va se joindre, hein, avec 6 autres États. Alors, parce que ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. Alors, immédiatement après le 6 décembre, hein, il y a eu 6 États qui sont venus rejoindre la Caroline du Sud. Alors, la Géorgie, l'Alabama, vous voyez, la Géorgie, l'Alabama, la Floride, le Mississippi, la Louisiane et le Texas. Donc, ça fait 6 et 1, 7. Puis, après, vont se joindre, hein, à la Confédération, hein, après l'entrée en fonction de Lincoln, au mois de mars, vous voyez, 4 mois après, vont venir rejoindre la Confédération 4 États, hein, 4 autres États. La Caroline du Nord, la Virginie, le Tennessee et l'Arkansas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il dit Arkansas et non pas Arkansas? Alors, les anglicistes distingués, que sont certains d'entre vous, savent peut-être pourquoi. Parce que Arkansas, c'est un nom d'origine indienne et on doit dire Arkansas. Hein, et non pas Arkansas. Hein, enfin, si vous dites Arkansas, c'est pas grave, mais bon, mieux vaut le prononcer à l'indienne parce que c'est un nom d'origine indienne. C'est un nom d'origine indienne. Alors, vous voyez la Confédération, hein, qui se constitue 11 États. Hein. Le jour où Lincoln entre à la Maison Blanche, hein, il
prononce un discours devant le Capitole, sur les marches du Capitole. Vous avez sans doute vu la retransmission de ce discours des présidents précédents. Je vous raconterai une anecdote à propos d'un président du 19e siècle. La cérémonie a lieu en mars, donc souvent à Washington, il fait très froid, et il y a un président qui est mort, qui a eu une pneumonie à la suite de cette cérémonie qui est interminable.
Comment ?
Ah, peut-être, je ne m'en souviens plus. Mais il y en a un qui est mort presque aussitôt d'une pneumonie qu'il a attrapée, le malheureux, à l'occasion de cette cérémonie. Voilà, alors. Mais je vous en reparlerai. Voilà. Ah, ben on le voit.
1849-1850.
Voilà. Oui. Non, parce qu'il est mort quelques semaines après sa prise en fonction. Il a l'air pourtant d'assez bonne. Il a l'air costaud, mais il faut croire que. Alors, dans ce discours de Lincoln, Lincoln n'admet pas cette sécession, il le dit très clairement, dans ce discours inaugural de sa présidence, il n'accepte pas cette sécession et aucun compromis. Donc, c'est en fait c'est le casus belli, mais c'est les États du Sud qui vont prendre l'initiative des premiers combats, qui déclenchèrent véritablement la guerre, en bombardant. Alors là, je vais peut-être projeter, on va peut-être momentanément éteint le vidéoprojecteur. Je vais... Ah bon. Bon, alors, vous allez voir, voilà, les troupes du sud, les troupes sudistes, les premiers combats ont eu lieu tout près de Charleston, vous voyez, à Fort Sumter, vous voyez, sur la côte atlantique. C'était une base navale, une base militaire, entre autres, de l'armée fédérale. Et le général de Beauregard, qui était un des chefs sudistes, a attaqué ce fort où il y avait des troupes fédérales, et c'est la première opération de la guerre qui a eu lieu le 12 avril 1861. Donc il y a eu quand même un temps de latence entre la proclamation de la sécession et puis les premiers combats. Apparemment, il y a dû y avoir quelques combats sporadiques locaux, mais le véritable début de la guerre, c'est l'attaque sur Fort Sumter de l'armée sudiste. L'armée sudiste, donc, s'empare de Fort Sumter. Donc, je vais aborder la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire la guerre civile, proprement dit. Alors, cette guerre civile, vous voyez, elle commence en 1861, elle s'achèvera en 1865, elle a duré 4 ans. C'est la plus longue guerre du 19e siècle. C'est la plus longue et également la plus meurtrière, parce qu'on cite toujours les campagnes napoléoniennes, mais la guerre civile américaine est beaucoup plus meurtrière que les campagnes napoléoniennes. Alors, voyons un petit peu le rapport de force d'abord entre les deux camps. Alors, les sudistes, on va peut-être commencer par les nordistes d'abord, qu'on appelle les fédérés. Par opposition aux sudistes qu'on appellera les confédérés. Les fédérés ont pour eux d'abord la supériorité numérique. Les États du Nord sont beaucoup plus peuplés, et donc, étant plus peuplés, ils peuvent mobiliser davantage de soldats. Le poids démographique des États du Nord est de 22 millions d'habitants, les États confédérés du Sud n'ayant que 9 millions d'habitants, dont plus du tiers était constitué par les esclaves. Donc on pouvait supposer que ceux-ci ne se battraient pas contre ceux qui promettaient l'abolition de l'esclavage. Il a été difficile d'être sûr de leur fidélité. Alors, les États du Nord avaient surtout, outre la supériorité numérique, ils avaient surtout la supériorité industrielle. C'était les États les plus industrialisés du pays, donc eux avaient la possibilité de fabriquer des armements que les États du Sud n'ont jamais pu vraiment fabriquer, qu'ils ont dû acheter en Europe.
Ils avaient également la supériorité maritime. Ils ont eu la supériorité maritime parce qu'ils avaient une flotte qui s'est révélée. Enfin, bon, il y a eu des combats maritimes, je vais en parler, mais leur flotte a très vite organisé le blocus des côtes des États confédérés, puisque les États confédérés devaient à tout prix continuer à vendre du coton pour recevoir de l'argent, pour acheter des armes en Angleterre ou ailleurs, pour continuer la guerre. Par contre, les confédérés avaient un avantage, ils avaient au départ de bien meilleurs officiers. L'essentiel du corps des officiers américains était constitué par des officiers originaires du Sud, dans une grande famille de planteurs du Sud. Bon, les aînés reprenaient le flambeau à la tête de la plantation, et puis les cadets, allaient dans les académies militaires. Donc, la plupart des cadets des familles, des riches familles du Sud, devenaient militaires. Donc, au départ, les officiers sudistes étaient des officiers beaucoup mieux formés que leurs homologues du Nord. Alors, l'effort de guerre des deux côtés a été considérable. Il y a eu une mobilisation sans précédent des deux côtés. Les armées du Nord, du Sud ont levé 1 million d'hommes, ce qui est quand même tout à fait considérable quand on songe qu'il n'y avait que 9 millions d'habitants dans les États du Sud, dont un tiers d'esclaves. Les armées du Nord, et ça explique en grande partie leur succès à l'issue des combats, ont réussi à mobiliser 2,5 millions de soldats. Donc vous voyez, il y a quand même déjà un déséquilibre numérique. On dénombre en tout, alors je crois que vous avez une carte qui est assez intéressante, on dénombre un nombre considérable de batailles. Il y en a eu au total plus d'une centaine. Alors, sur cette carte qui est en anglais, les batailles de la guerre civile, vous avez des couleurs, et vous voyez qu'elles se sont déroulées un peu partout, mais surtout quand même aux limites, vous voyez, à la frontière, et dans les États du Nord comme dans les États du Sud. Et puis, il y a eu également les combats dans le long des côtes, en particulier vers le delta du Mississippi. Alors, je ne vais naturellement pas faire une étude exhaustive de toutes ces batailles. Ce que je voudrais simplement, c'est vous présenter très rapidement. En fait, il y a eu trois grandes zones de front. Il y a le front maritime, je vais vous en parler. Ensuite, il y a les batailles qui se sont déroulées dans les États proches de l'Atlantique, vous voyez là, dans toute cette zone, qui ont été décisives. Et puis, il y a eu les batailles le long de la vallée du Mississippi. Vous voyez, tout le secteur le long du Mississippi. Alors, comme je le disais, on va commencer d'abord par la guerre navale, parce qu'elle est intéressante. Les opérations navales. La flotte du Nord a tout de suite mis en état de blocus les côtes des États confédérés, dans le but d'empêcher les États confédérés de vendre leur coton et de s'approvisionner en armement. C'est la guerre de sécession, vous savez, c'est la guerre où sont apparus les premiers navires vraiment cuirassés, qui ont déjà l'allure des navires qu'on verra ensuite pendant la guerre de 14-18, y compris des navires sur le Mississippi lui-même. Des navires cuirassés sont apparus. Alors, la flotte du Sud, l'armée du Sud, militaire, a été en grande partie constituée par des navires achetés en Angleterre. Essentiellement, elle a remporté, cette flotte sudiste, un certain nombre de succès. Vous savez qu'il y a un navire en particulier qui a été très célèbre dans cette guerre navale, c'est le bateau qui est l'Alabama, qui a coulé plus de 65 navires nordistes. mais qui finalement a été coulé par la flotte nordiste. Et il a été coulé, vous le savez peut-être, parce qu'il y a assez régulièrement des opérations d'exploration des vestiges. Il a été coulé au large de Cherbourg, parce que les combats se sont étendus sur toute l'Atlantique. Hein, il a été coulé en 1864, et il y a des équipes régulièrement d'Américains qui veulent remonter des vestiges de la lave. Il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, sur une chaîne de télévision, hein, un reportage sur ces campagnes de plongée qui ont lieu dans la région, enfin au large du Cap de la Hague. C'est dans ce coin-là que le bateau a été coulé. Hein. Alors, on va peut-être reprendre cette carte-là. Voilà. Alors, sur le front du Mississippi, hein, vous voyez, ce qui a été important, c'est de signaler très rapidement la prise par l'armée nordiste de la ville de la Nouvelle-Orléans. Les troupes nordistes se sont emparées de la Nouvelle-Orléans dès 1862. Alors, c'est très grave parce que les sudistes n'avaient plus de porte de sortie par le delta du Mississippi. Hein ? Et puis alors, il y a une deuxième bataille très importante, un peu plus au nord, vous l'avez sur la carte, c'est la bataille de Vicksburg. Hein, sur le Mississippi, hein, où s'est illustré un général dont on va voir, je crois, le portrait, M. Fournier va nous montrer, le général Grant, hein, qui s'est illustré à cette bataille de Vicksburg, hein, en 1863. La prise de la Nouvelle-Orléans. Alors voilà, je crois, Grant. Alors, je vais éteindre. Alors, vous avez Grant qui est donc à droite, hein, et Lee, hein, le président de la Confédération, le général en chef, pardon, de la Confédération. Hein. Alors, cette bataille de Vicksburg est importante parce qu'elle a permis aux troupes nordistes de récupérer la navigation sur le Mississippi. Désormais, les sudistes. Alors, c'est important parce que si on reprend la carte, remontrez peut-être la carte des États confédérés. Voilà, cette carte-là. Vous voyez la reprise du contrôle de la vallée du Mississippi, ça coupait la Confédération en deux. Quel était l'État qui se trouvait désormais isolé du reste ? Le Texas. Hein, le Texas, hein, se trouvait isolé. Hein, et même l'Arkansas, qui est situé, bien qu'il ait. Il est situé, vous voyez aussi, à l'ouest, hein, et se trouvaient ces deux États et une partie de la Louisiane ne pouvaient plus véritablement apporter leur soutien aux troupes sudistes. Hein, c'est très important. Hein. Alors, l'essentiel de la guerre, enfin, là où on se jouait vraiment l'issue de la guerre, c'est, hein, sur la région atlantique. Hein. Alors, Les sudistes ont d'abord remporté un certain nombre de succès. Hein. Au début de la guerre, si vous voulez, l'issue de la guerre était loin d'être jouée. Hein. Les sudistes ont remporté toute une série de succès sur les troupes nordistes dont j'ai expliqué tout à l'heure qu'elles étaient moins bien encadrées, moins bien formées au départ. Hein. Disons que jusqu'en 63, hein, si vous voulez, il y a deux périodes. Jusqu'en 63... malgré les succès des Nordistes dans la vallée du Mississippi, il y a un certain équilibre et même la guerre a penché plutôt en faveur des armées sudistes. Le retournement, c'est 1863-1864. Hein. Alors la première grande victoire nordiste, c'est à Gettysburg. Hein. Vous voyez, Gettysburg, c'est en Pennsylvanie. Hein. C'est pas très loin, vous voyez, de Washington. C'est au nord de Washington. Hein, victoire remportée en juillet. La bataille a duré du 1er au 3 juillet 1863. Hein, et vous voyez, alors, c'est en plus la date est symbolique parce que le 4 juillet est la date anniversaire, hein, des États-Unis. Naturellement, les nordistes sont sortis vainqueurs de cette bataille de Gettysburg.
Et elle est très importante parce que vous voyez Gettysburg, c'est pas très loin de Washington. Et la victoire nordiste à Washington, ça bloquait tout espoir des sudistes de s'emparer de la capitale fédérale. Leur capitale étant à Richmond, pas très loin de Washington. La capitale des États sudistes étant à Washington. Alors il a fallu quand même attendre encore 2 ans avant la victoire finale des nordistes sur les sudistes. Il faut encore attendre 2 ans pour que le général en chef des armées du Nord, une grande, dont vous avez vu tout à l'heure le portrait, réussisse la victoire finale. Alors il lance une grande offensive contre Richmond, qui apparaît là, la capitale des États confédérés, en même temps qu'une vaste opération lancée à partir de l'ouest a pour but, vous voyez, de prendre en étau la capitale. C'est la ligne, vous voyez, que vous voyez là, qui est suivie par le général Sherman. Les deux grands chefs des armées nordistes, c'est Grant et c'est le général Sherman, qui va mener une grande opération militaire à travers la Géorgie, s'emparer d'Atlanta, puis remonter vers le nord à travers les Carolines. Vous voyez, Caroline du Sud, Caroline du Nord, jusqu'à Richmond. Et c'est finalement cette double opération sur la capitale des Confédérés qui aboutit à la capitulation qui des troupes sudistes le 9 avril 1865. Comment ? Oui, on va éteindre et vous allez peut-être montrer là. Alors, voilà donc le portrait de Sherman. Alors, avant la guerre et pendant la guerre. Pendant la guerre. Vous voyez que la guerre l'a vieilli. Mais c'est un peu la même chose avec nos poilus de 14-18. Parce que mes élèves sont toujours frappés quand je leur dis que la plupart de ces soldats, quand on voit des actualités, quand on voit des photos, étaient si jeunes. Parce que c'est vrai que quand on voit le poilu de 14-18, ils paraissent âgés. Et là, véritablement, la guerre a donné à Sherman un coup de vieux.
Une petite précision, c'est la première fois qu'il y a eu une guerre de tranchées.
Oui, il y a eu des tranchées.
En 1862-63. Et c'est un scandale que les stratèges, aussi bien du côté allemand que du côté français, ne se soient pas attendus à ce scénario-là en 1914, puisque 50 ans avant, dans des conditions identiques, le phénomène des tranchées était apparu. Donc l'Internet n'existait pas, il ne devait pas être au courant de ce qui s'était passé.
Non, mais c'est d'autant plus, je rebondis sur la remarque de M. Fournet, c'est d'autant plus inadmissible que juste avant la guerre de 14-18, là je fais un aparté, mais on est là, je suis tout à fait dans l'anniversaire de ces événements, il y avait eu les conflits balkaniques en 1911 et 1912, où il y avait eu déjà une guerre de tranchées en Bulgarie. Et dans tous ces territoires du sud des Balkans. Donc, alors, 9 avril, fin de la guerre, avec la reddition. Alors ça, c'est un tableau, je ne sais, avec... Voilà, grande, et puis Lee, ici, général Lee.
Il n'y avait pas de photographe.
Ah, je crois qu'on a quand même... Il y a des photographies. Ah, si, il y a des photos, mais là, bon, c'est un tableau qui met en vedette. Je ne sais pas, vous savez où se trouve ce tableau ? Non, dans un musée américain, sans doute.
Oui, dans un musée américain, à Washington.
Oui. Ou peut-être à la Maison Blanche. Je ne sais pas. 9 avril 1865. 5 jours plus tard, le 14 avril, Lincoln assiste à... une pièce de théâtre dans un petit théâtre de Washington que vous pouvez visiter. On voit même la loge où le président se trouvait et la porte, hein, le trou qu'a fait la balle, hein, dans la porte. Hein, et 4 jours plus tard, donc le 14 avril, le président Lincoln est assassiné, hein, par un sudiste qui, naturellement, voulait en quelque sorte... effacer cette défaite des sudistes en assassinant le président. Alors, je voudrais vous parler du bilan, hein, mais je vais finalement avoir le temps, parce que j'ai été quand même relativement rapide sur les événements purement militaires, qui sont bon, intéressants, mais je ne voulais pas trop longuement insister sur toutes les batailles de la guerre de sécession, c'est quand même un peu fastidieux. Je voudrais essayer de dresser un bilan et surtout les problèmes politiques nés de la guerre. Hein. Alors le bilan d'abord, le bilan humain, hein, il est tout à fait gigantesque puisque les armées du Nord, hein, qui avaient mobilisé, je vous le rappelle tout à l'heure, à peu près 2,5 millions de soldats, ont eu quand même 360 000 tués. Hein. Il y a eu également... parmi ces morts, je devrais dire morts et non pas tués, il y a eu beaucoup de blessés qui sont morts des suites de leurs blessures et aussi de morts par maladie. Hein, pendant, imaginez aussi les conditions climatiques dans le sud des États-Unis, hein, etc. Il y a donc eu 360 000 nordistes qui sont morts dans la guerre. Hein. Pour les armées confédérées, il y a eu à peu près 250 000 morts, ce qui est tout à fait considérable quand on sait qu'ils avaient mobilisé à peu près 1 million de soldats. Vous voyez, ça fait le quart des effectifs, hein, dans l'armée sudiste. Alors, le bilan humain fait de la guerre de sécession la guerre la plus meurtrière de toutes les guerres du 19e siècle. C'est la guerre la plus meurtrière, hein, du 19e siècle. Le bilan économique est également considérable. Si vous avez remarqué, en fait, la guerre, l'essentiel des batailles se déroule dans le sud. Hein, dans le sud. Donc le sud sort absolument ravagé de la guerre. Il faudra une trentaine d'années, je vous en reparlerai la semaine prochaine, pour rebâtir l'économie du sud. La production de coton, n'a retrouvé son niveau d'avant la guerre de sécession que vers 1890. La guerre de sécession prend fin en 1865. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour que l'économie cotonnière dans le sud puisse retrouver son niveau d'avant la guerre. Hein? Donc on peut dire que la plus grande partie des infrastructures économiques du sud, y compris les voies ferrées, ont été complètement détruits, hein, et le Sud a pâti pendant des décennies de ces ruines matérielles causées par la guerre de sécession. Hein. On a beaucoup de photos de ces villes en ruines du Sud, hein, dont beaucoup avaient été incendiées au cours des combats, hein, et on a une très belle photo, hein, de ces villes meurtries du sud. Hein, il y a eu des expositions, hein, là-dessus et de très grands photographes. Parce que naturellement, c'est plus facile à l'époque, puisqu'on n'a pas la possibilité des instantanés comme aujourd'hui, plus facile de photographier des villes détruites, des scènes fixes, que des combats. Hein. Encore qu'on a énormément de tableau. Alors il y a une cohorte de peintres à l'époque qui suivent les armées et qui... il y a énormément de tableaux, de scènes de bataille de la guerre de sécession, hein, dans les musées américains, hein, à propos de la guerre de sécession. On a quelques photos aussi. Hein. Les conséquences politiques sont très importantes. Alors, je voudrais développer ce point, hein, qui est quand même très important parce qu'il y a toute une série de conséquences. Hein. Alors, la conséquence politique, c'est que la victoire du Nord a maintenu l'unité des États-Unis, hein,
l'unité des États-Unis, hein, le maintien de l'unité nationale, ce qui était la première, alors, ce qui est important, c'est la première préoccupation de Lincoln. Il a fait passer avant l'abolition de l'esclavage. Pour lui, l'essentiel, c'est de sauver l'unité nationale américaine. Hein, pendant toute ça, pendant toute la guerre, ça a été sa préoccupation, hein, avant l'abolition des esclaves. Pourtant, bon, la deuxième préoccupation, c'est l'émancipation des noirs. Alors là, elle se fait en trois étapes, hein, que je vais rappeler, hein, qui est important. Alors la première étape, hein, c'est la décision que le président prend en septembre 1862. Le 22 septembre 1862, Lincoln fait une proclamation, hein, qui annonce que les Noirs seraient libres dans tous les États sécessionnistes du Sud le 1er janvier 1863. Hein, c'est la première décision. Mais c'est une décision qui est sans effet, puisque dans les États du Sud, à l'exception de quelques États qui sont déjà contrôlés par les sudistes, dans la plupart, ce sont les États sudistes qui les tiennent. Donc c'est une décision qui est certes très généreuse, mais qui n'a pas d'effet pratiquement immédiat. Hein. Ce n'est pas parce que le président Lincoln a déclaré qu'à partir du 1er janvier 1863, les Noirs étaient émancipés qu'ils le sont effectivement. Hein. Deuxième étape. Hein. Justement, toujours ce 1er janvier 1863, hein, l'esclavage est aboli dans les États rebelles, hein, du Sud. Hein, mais encore faut-il pouvoir faire appliquer la décision. Hein. Donc, la décision, si vous voulez, a une grande portée symbolique. Hein, elle a une grande portée symbolique. Le but, c'était d'inciter aussi les Noirs, sachant qu'ils étaient désormais libres, à se soulever, en quelque sorte faire un deuxième front intérieur contre les armées sudistes. Hein. Mais dans la réalité, elle a eu peu d'effet, puisque naturellement, elle n'a pas pu être appliquée, hein, dans les États rebelles. Hein. Alors, on va peut-être remontrer la carte, parce que entre 1863... et 1865, hein, un certain nombre d'États qui n'étaient pas entrés dans la Confédération, hein, parce que, regardez, le Missouri n'était pas dans la Confédération, or c'était un État, hein, esclave, de même que le Kentucky. Hein. Dans ces États, entre 63 et 65, ces États ont voté l'abolition de l'esclavage, se disant qui commençait à sentir le vent allait tourner en faveur des États du Nord, de donner en quelque sorte un gage, hein, au gouvernement fédéral en montrant leur bonne volonté, en se disant, quand la guerre sera terminée, comme elle va se terminer certainement par la victoire des nordistes, on n'aura pas de retour de bâton, puisque nous prenons nous-mêmes la décision de libérer nos esclaves. Hein. Il faut bien comprendre cette attitude de ces États, hein, esclavagistes, mais qui n'étaient pas entrés dans la Confédération. Hein. C'est un peu compliqué, parce que tous les États à esclaves n'ont pas fait partie de la Confédération. Hein. C'est le cas du Missouri, c'est le cas du Kentucky, par exemple. Hein. Donc ces États-là ont aboli l'esclavage, hein, ont légiféré pour abolir l'esclavage. Hein. Alors, ce n'est qu'après la fin de la guerre de sécession, c'est le 18 décembre 1865, c'est le 18 décembre 1865 que le Congrès a adopté définitivement l'abolition de l'esclavage. C'est le 13e amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire quelques mois après la mort de Lincoln. Lincoln n'a pas vu, hein, l'émancipation, vote par le Congrès américain de l'amendement qui libère les esclaves, hein, puisque cet amendement a été voté le 18 décembre, hein, 1865. Quel était l'homme qui aurait pu peut-être ressouder l'unité nationale, hein? Eh bien, c'était Lincoln, mais malheureusement Lincoln n'était plus là. Hein? Alors, comme le prévoyaient les institutions américaines, hein, c'est, on va peut-être voir son portrait, alors c'est Andrew Johnson. Alors attention, il y a eu deux Johnson qui ont été présidents des États-Unis. Celui-là, c'est Andrew. Andrew Johnson, vous voyez son portrait là, est devenu président des États-Unis. Il n'avait pas le charisme, l'envergure politique de son prédécesseur, et c'est pourquoi ce qu'on appelle la reconstruction a été aussi difficile et aussi laborieux et a laissé de lourdes séquelles entre les États du Nord et du Sud des États-Unis. Alors, quelle était l'idée de Lincoln? Parce que Lincoln avait, pendant ces années de la guerre, déjà médité ce qu'il pour essayer de ressouder l'unité nationale. Alors, lui était partisan, de verser, pour faire accepter l'abolition de l'esclavage, d'indemniser les propriétaires, les grands planteurs du Sud. Sa grande idée, c'était en quelque sorte de monnayer l'émancipation contre une indemnisation des grands planteurs du Sud qui se trouvaient naturellement, lésés par la perte de cette main-d'œuvre servile. Bon, Lincoln aurait su certainement l'imposer au Congrès et à son parti. Mais Johnson n'avait pas la carrure politique pour l'imposer ni au Congrès, ni au Parti républicain. Et Johnson n'a pas su imposer véritablement les mesures nécessaires qui auraient été nécessaires pour ressouder l'unité nationale. Il n'a pas eu la capacité politique et il s'est fait dépasser. Il a été en quelque sorte court-circuité par les républicains, par le Parti républicain, qui a voulu prendre en quelque sorte sa vengeance sur les États du Sud rebelles et profiter de la défaite du Sud pour s'installer politiquement dans les États du Sud. Alors, on va revenir là-dessus, avec ce qu'on appelle ces politiciens républicains qui déferlent sur le Sud et qui prennent, qui s'installent politiquement dans les États du Sud. On les appelle les carpetbaggers parce qu'ils arrivaient sans rien, ils s'imposaient dans le Sud. Alors, d'abord, les États du Sud ont été l'objet d'une occupation militaire qui a duré plusieurs années. L'armée fédérale ne s'est pas retirée après la reddition d'Appomattox. Les armées nordistes sont restées. Des armées d'occupation. Vous voyez, ça c'est quand même assez hallucinant, parce qu'on est dans un... C'est pas comme aujourd'hui, les troupes américaines en Irak. Là, on est aux États-Unis, les troupes fédérales restent. Il y a une occupation des États du Sud. Et ils vont être soumis pendant de très longues années à une occupation militaire, et ce sont les autorités militaires qui prennent en charge l'administration des États du Sud. Toute l'administration locale des États du Sud est surveillée et n'a qu'un rôle d'exécutant. C'est un petit peu, toute proportion gardée, un petit peu ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande en France. Les nordistes se comportent absolument comme se sont comportés les Allemands en France, dans la zone nord, dans la zone occupée. Pour permettre l'élection des républicains venus du nord, alors on va établir des listes électorales, etc., où on va donner massivement le droit de vote aux Noirs. Naturellement, comme ces Noirs étaient totalement exclus de la vie politique, vous imaginez que les hommes politiques venus du Nord, les républicains venus du Nord, vont créer une clientèle dans cette population noire et vont faire voter les Noirs en faveur de ces politiciens venus du Nord. Alors que les politiciens du Sud, il va y avoir une sorte d'ostracisme à l'égard des politiciens du Sud,
qui vont être exclus de la vie politique pendant de très nombreuses années. Un petit peu ce qui s'est passé après la Libération, hein, où il y a eu un tas d'hommes politiques liés à Vichy et qui ont été écartés en France. Hein. Pour tout simplement, pour collaboration avec les autorités du gouvernement de Richmond, du pouvoir confédéré. Hein, vous voyez, des autorités locales, des hommes politiques locaux ont été écartés pendant de très nombreuses années pour avoir collaboré avec les autorités confédérées. Hein. Alors, deux amendements très importants. C'est en 1868, le 14e amendement, qui donne la citoyenneté aux Noirs, hein, une citoyenneté de pur passage. Hein. C'est en 1868, et en 1800, c'est le 14e amendement, et en 1870, qui leur donne le droit de vote. Hein. Bon, depuis déjà, ça leur donne officiellement le droit de vote, mais on les faisait voter, c'est bien ça de dire, on les faisait voter, hein, en leur indiquant bien le bulletin qu'il fallait choisir. Hein. Donc, en quelque sorte, la réconciliation a été, dans les premières années, complètement ratée. Hein. Ça, il faut le dire que ça a été un fiasco. La réconciliation a été, sous Johnson, totalement un échec. En 1868, d'ailleurs il ne fera qu'un seul mandat, c'est le grand vainqueur, le héros de la guerre civile, qui devient le président. Hein, Ulysse Grant devient président. Vous voyez qu'il a changé, hein, on le voit sur la photo. Hein, il devient président des États-Unis, il fera d'ailleurs deux mandats. Hein. Lui a une aura politique beaucoup plus grande que son prédécesseur, hein, mais vis-à-vis des sudistes, naturellement, c'est quand même leur vainqueur. Hein, hein, c'est quand même leur vainqueur. C'est souvent dans l'histoire américaine comme ça qu'un général vainqueur devient président. Regardez après la Seconde Guerre mondiale, l'élection en 1952 d'Eisenhower. Hein, mais là, c'était dans un autre contexte, c'était une guerre civile. Hein. Mais Grant a une politique quand même plus habile que Johnson vis-à-vis des États du Sud, mais il a eu de nombreuses difficultés. D'ailleurs, lorsqu'il est devenu président, il faut le noter, c'est les Républicains ont aussi remporté une très large victoire au Congrès, c'est-à-dire qu'en 1868, les Républicains obtiennent la majorité à la fois au Sénat, au Congrès, enfin à la Chambre des représentants, et élisent leur président. Dans le Sud, dans ces années qui succèdent à la guerre, il y a un très grand mécontentement des blancs du Sud. Il y a un très grand mécontentement de la politique de ces gens venus du Nord qu'ils considèrent comme de véritables occupants. Il y a un sentiment d'occupation par les nordistes. Et ce n'est que très lentement, il faudra des années, pratiquement 20 ans, pour que progressivement, les hommes du Sud, puissent reprendre l'administration des États du Sud. C'est très lentement, et ça a nourri un ressentiment très durable des populations des États du Sud contre ceux du Nord. Même encore aujourd'hui, les Américains des États du Sud ont un ressentiment contre le Yankee du Nord. Pensez également que ces blancs du Sud étaient très mécontents de voir totalement manipuler les élections par ces hommes politiques venus du Nord qui manipulaient le vote des Noirs. Qui exploitaient leur naïveté, en particulier ces fameux carpetbaggers, ces hommes ces républicains venus du Nord qui s'étaient fait souvent battre aux élections du Nord et qui naturellement venaient se faire élire dans le Sud. Vous perdiez une élection dans un État du Nord, on vous disait, bah, tiens, va tenter sa chance dans le Sud, de toute façon là, une élection est à peu près assurée, hein, et avec naturellement les avantages financiers qu'entraînait hein, une élection. Hein. Alors pourquoi les appelle-t-on carpe de bagarre? Parce qu'ils arrivaient avec une simple valise hein, et faisaient fortune politique dans hein, le Sud. Hein. Alors, cette utilisation des Noirs pour servir la carrière politique de ces hommes venus du Nord a conduit hein, dans le Sud, dans les éléments les plus radicaux de la population du Sud, à la naissance, à ce moment-là, d'un mouvement que vous connaissez tous, qui est le Ku Klux Klan, contre les Noirs et pour les intimider à ne pas voter hein, et à ne pas participer aux élections. Hein, c'est dans ce climat que s'est constitué à ce moment-là hein, le Ku Klux Klan. Hein. Et progressivement, tout de même, hein, ces hommes politiques venus du Nord ont réussi quand même à être un peu évincés. Hein. Alors, parmi eux, il y avait des escrocs manifestes hein, qui avaient naturellement profité de l'occasion pour s'installer hein, dans le Sud. Donc vous voyez une reconstruction politiquement, enfin économiquement d'abord très longue, politiquement très difficile. Il faut attendre pratiquement 1890 pour que, disons, les séquelles les plus graves de la guerre civile soient à peu près résolues. C'est quand même, réfléchissez, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années, hein, 65, même plus, hein, 15-20 ans, hein, pour que les choses se calment un peu. Hein. Alors, je vous disais tout à l'heure, 1890, je vois dans mes notes, hein, la récolte, par exemple, du coton, sur le plan économique, retrouve son niveau d'avant la guerre de sécession. Donc, oui, il a fallu longtemps pour... Parce que, naturellement, les plantations avaient été ruinées hein, pendant toute la guerre, par les opérations militaires, etc., hein. Ce qui est, par contre, et je vais finir simplement par là, hein, je vous laisserai le temps de poser si vous voulez quelques questions, dans cette période dite de la reconstruction, les États-Unis ont repris, par contre, très rapidement leur essor ailleurs dans le Sud. Je vais vous donner quelques faits. Hein. C'est l'achèvement, par exemple, en 1869, du chemin de fer transcontinental. Vous voyez que s'il y a des problèmes latents dans le Sud pendant toute cette période, ailleurs, les États-Unis reprennent leur expansion. Le chemin de fer transcontinental qui relie la côte atlantique et la côte pacifique est achevé en 1869, par exemple. Hein? La mise en valeur du Middle West agricole hein, reprend très vite, alors que le Sud a beaucoup de mal à faire repartir l'économie du coton, l'expansion dans le Middle West. Hein, l'expansion agricole est extrêmement rapide. Hein. De même, on va mettre en valeur très rapidement toutes les ressources minières, hein, en particulier dans la région des Grands Lacs, hein, immédiatement après la guerre de sécession. On avait commencé à les mettre en valeur pendant la guerre parce qu'on avait besoin de fer et d'acier pour les besoins militaires, hein, mais l'essor économique reprend, l'immigration va reprendre, aussi l'immigration extérieure qui a été stoppée pendant la guerre de sécession, va reprendre, va être assainie également, ça c'est un point important, mais j'y reviendrai, va être assainie aussi la situation financière, parce que le Nord, pendant la guerre, avait pratiqué une politique d'inflation, il fallait faire marcher la planche à billets, donc il y a eu une inflation très forte, mais cette inflation a été assez rapidement jugulée hein, après la guerre. Hein. Et puis, on peut peut-être remontrer la carte, qui est quand même le symbole de l'expansion américaine. Cette carte-là ne le montre pas, malheureusement. En 1867, mais je vous en reparlerai, les États-Unis s'agrandissent d'un territoire trois fois plus grand que la France. Voilà, l'Alaska. Alors, c'est peut-être marqué dans la chronologie. Voilà, regardez, vente de l'Alaska par la Russie. Hein? Donc, d'un seul coup, hein, les États-Unis s'agrandissent d'un très grand territoire, mais je vous reparlerai de cet achat par les Américains de l'Alaska en 1867 la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. Et pour une fois, j'ai tenu ce que je voulais vous dire en une heure et demie, donc c'est bien. Voilà.
Merci, M. Bourret. Y a-t-il des questions ?
Alors, des questions, si je peux y répondre. Ne me posez pas trop de questions sur les batailles, parce que ça, je ne suis pas...
Il me semble que les guerres napoléoniennes furent plus meurtrières.
Sur la longue durée, oui, mais sur un laps de temps aussi court, il y a plus de...
Pour l'aspect meurtrier, on peut mentionner qu'il y a eu des innovations, entre guillemets, dans les armes qui ont été tout à fait considérables. C'est la mitrailleuse qui est apparue pendant la guerre de sécession et le fusil à répétition, le fusil à répétition, le Winchester. Hein?
Surtout la mitrailleuse qui a fait beaucoup.
La mitrailleuse, c'était efficace. Et donc, les stratèges, une fois de plus, n'avaient pas anticipé l'évolution de la tactique et de la stratégie liée à une rupture technologique. Ce qu'on a vu dans la première guerre, dans la deuxième guerre. Comme disait Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour l'appuyer aux militaires. Et je crois que c'est vérifié expérimentalement en permanence. Hélas. Bon, moi je voudrais faire une petite pub. Vous savez qu'on a un projet de voyage aux États-Unis. Et dont la moitié est consacrée à une visite de la Virginie où on visiterait ou on visitera des sites disons de la guerre civile, donc Richmond, Williamsburg. Et donc c'est pas tout à fait par hasard qu'on a fait ce programme-là parce qu'il est en écho un petit peu en illustration de l'histoire des États-Unis.
Quels sont ceux qui n'ont pas la carte? Ah. Vous êtes arrivé, vous auriez dû me les demander, parce que...